Si, parce que tu as pensé à nous quand toi tu étais dans les moments difficiles, dans les moments de détresse, dans ce jardin avant d'aller à la croix, tu pensais à nous et tu l'as fait. Tu as été jusqu'au bout, Seigneur. Tu as porté toutes ces choses dans la solitude la plus complète pour que nous ne soyons pas seuls, Seigneur. Aide-nous à nous saisir de ta provision, à nous saisir de ta présence, à recevoir de toi, pour que nous puissions traverser les moments de joie en te louant et les moments difficiles en s'appuyant sur toi, Seigneur. Merci pour ce moment encore ce matin et que nous puissions être encouragés, éclairés, enseignés par ta parole, Seigneur. Amen. Alors vous savez que vous avez le droit de passer des commandes pour les messages. Hein, c'est arrivé quelques fois déjà que les gens disent « Tiens, j'aimerais bien qu'on parle de ce sujet. » Alors le sujet de ce matin est une commande, entre guillemets. Quelqu'un dans l'assemblée m'a demandé si je pouvais parler sur la guérison et l'onction d'huile. Donc c'est un bon sujet et on va l'aborder ce matin ensemble. Il y a beaucoup à dire sur ce sujet, bien sûr. Je prétends ni en faire le tour, ni tout savoir dessus. On va essayer de voir quand même quelques points et puis de s'arrêter un peu plus sur le verset spécifique qui parle de l'onction d'huile, mais on va voir aussi la guérison dans son ensemble. La maladie est une conséquence du péché dans le monde, ça c'est une évidence biblique. Mais c'est très important d'établir, et ça on peut le faire très clairement avec la parole de Dieu, c'est pas lié au péché de quelqu'un en particulier. Je dirais, sauf cas d'un comportement qui me met en danger. Hein, si je fume 4 paquets de cigarettes par jour et que je meurs d'un cancer des poumons, c'est pas une punition de Dieu, c'est pas le péché dans le monde, c'est ma décision. Si je mange à McDonald's matin, midi et soir pendant 6 mois et je meurs empoisonné, c'est pas une punition de Dieu, c'est pas le péché dans le monde, c'est ma bêtise qui fait que... Hein, d'accord. Donc, bien sûr, nos comportements ont des conséquences sur notre santé. Mais ce que je veux dire, c'est que Dieu nous avait créés au départ pour être en bonne santé, pour vivre en bonne santé, pour quitter ce monde en vivant avec lui, je ne sais pas de quelle façon, avant que la mort arrive. Hein. Donc, de toute façon, un être humain en bonne santé, qui vit en bonne santé toute sa vie, finit par mourir. Hein, voilà. Donc, ça c'est une réalité, et c'est pas à cause de ce qu'il a fait ou pas fait. Et pareil pour la maladie, il y a pour nous, de notre point de vue, de ce côté-ci du rideau, une injustice énorme avec des gens qui naissent avec une santé extraordinaire, qui en prennent pas soin, qui font tout pour la détruire et qui vivent très vieux en bonne santé. Et puis des gens qui naissent avec une santé fragile, qui en prennent soin et qui sont mal toute leur vie. Donc il n'y a pas du tout d'égalité les uns vis-à-vis des autres dans ce domaine-là. C'est une des choses qui pose beaucoup de problèmes par rapport à la question de la justice de Dieu, etc. Hein. Mais en tout cas, ce qui serait criminel, c'est de penser que je suis malade parce que j'ai péché, ou parce que mes ancêtres ont péché, ou parce que... Non, ce qu'on fait a des conséquences, hein, effectivement, ça peut en avoir sur la santé de mes enfants aussi, si je... Mais y a une part de mystère là-dedans, et on n'y peut rien, et on voit que Jésus traite ça, hein, dans Luc 13, je vous lis quelques versets, verset 1. À cette époque, survinrent quelques personnes qui informèrent Jésus que Pilate avait fait tuer des Galiléens pendant qu'ils offraient leur sacrifice. Jésus leur dit, « Pensez-vous que ces Galiléens ont subi un sort si cruel parce qu'ils étaient de plus grands pécheurs que tous leurs compatriotes ? Non, je vous le dis. Mais si vous ne changez pas, vous périrez tous vous aussi. » Bien sûr, il parle d'une autre dimension. Hein. « Rappelez-vous ces 18 personnes qui ont été tuées quand la tour de Siloé s'est effondrée sur elles. Croyez-vous qu'elles aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Non, je vous le dis. » D'accord. Donc là, ce n'était pas directement la maladie, mais Jésus explique, voilà, ces gens-là qui ont été arrêtés et tués, ceux-là, une tour leur est tombée dessus, ils sont morts. Voilà, les faits divers qu'on entend tous les jours, hein, pourquoi telle personne se trouve à ce moment-là quand le rocher est tombé sur la voiture, quand le camion est rentré dedans, telle personne qui a attrapé telle maladie, est-ce qu'ils étaient plus pécheurs, plus mauvais, etc. Non. Voilà, c'est notre lot sur terre, donc c'est pas une bonne chose, la maladie. Mais à part, comme je l'ai dit, dans des cas évidents où c'est lié à mes choix et à mon comportement, c'est en tout cas pas une punition ou un jugement de Dieu particulier sur une personne, hein, même si le cas pourrait éventuellement, théoriquement, exister. Par contre, Dieu peut se servir de ces choses-là pour nous parler ou nous communiquer des choses. Donc ça, c'est déjà une chose à avoir établie de façon importante, parce que sinon, c'est grave, hein. Ensuite, certains chrétiens disent, alors honnêtement, je ne sais pas sur quoi ils s'appuient, mais j'en ai entendu souvent, hein, que les miracles, donc le fait que Dieu puisse guérir des gens, se sont arrêtés à la mort des apôtres. Hein. Dans leur théorie, les miracles étaient là juste pour appuyer le début de l'évangile, pour lancer la machine, un peu de surnaturel pour approuver ce qui était dit. Et puis quand ils sont morts, c'est fini, il n'y avait plus de miracles. Hein. Ben, il n'y a aucun fondement biblique à ça. Voilà. En tout cas, personnellement, j'y crois pas et je ne sais pas sur quoi c'est appuyé, quoi. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui existe, hein. C'est un extrême d'un côté. De l'autre côté, certains croyants, en s'appuyant notamment sur les textes d'Ésaïe, hein, et quand il a pris sur lui toutes nos maladies, nos transgressions, etc., disent, et je ne sais pas non plus comment ils font pour l'affirmer, que tous les croyants devaient être guéris tout le temps. Puisque Christ est mort pour toutes nos maladies. En général, les gens qui prêchent ce genre de doctrine les prêchent jusqu'à ce qu'ils soient malades. Ou qu'un de leurs enfants soit malade, ou que leur femme soit malade. Après, ils révisent leur théorie. Hein. Mais ça existe aussi. Et c'est pareil, c'est pas équilibré, c'est pas biblique. On voit que Paul a guéri des malades, mais il a laissé Trophime qui était malade, et puis, etc., etc. Hein. Donc, c'est quand même important de signaler ces deux excès, je dirais, dans la pensée chrétienne. Les miracles n'existent plus, ou alors tous les croyants devraient guérir. Hein. C'est faux, et dans certains cas, ça peut être criminel. Je vais expliquer après un petit peu. D'accord. L'autre point qui est très important, c'est le lien qu'il y a entre la guérison et la foi. J'ai connu un cas particulier, Jean-Jacques connaît cette personne aussi, d'un monsieur qui était marié, un jeune homme marié avec une femme, qui à la naissance de l'enfant, ça avait déclenché une maladie génétique. Et donc, elle était dans cette maladie qui se développait. Hein. Et quand, je sais pas, en tout cas, leur fils avait 7-8 ans quand c'est arrivé, elle était aux portes de la mort. Et puis, elle était dans un groupe de croyants que j'appelle des fous furieux. Qui lui disait qu'il faisait des prophéties, qu'elle allait guérir, c'était sûr, il avait vu, et que si elle meurt, elle va ressusciter, etc., etc. Donc jusqu'au bout, elle était sous oxygène, dans une chambre spéciale, ils étaient là à hurler autour dans sa chambre pour chasser les démons de maladie, etc. Et puis la dame est morte, et elle n'est pas ressuscitée. Et là, à la conclusion, les responsables se sont tournés vers le mari et ont dit, tu n'avais pas assez de foi, si tu avais eu la foi, elle aurait été guérie. J'étais jeune à cette époque et Dieu a permis que je rencontre pas ces gens-là parce que je les cherchais avec un manche de pioche pour voir comment ils guérissaient ce genre de coups. Sérieusement, j'étais dans une furie quand j'ai appris ça, mais Dieu a permis que je les rencontre pas, ce qui est peut-être mieux pour moi. J'aurais eu un ministère en prison après. Mais ça c'est vraiment non seulement c'est une erreur, on peut avoir des idées différentes sur le sujet, hein, mais à ce niveau-là, c'est criminel. Vous imaginez dans quel état était le mari, déjà qui vient de perdre sa femme, et en fait, c'est sa faute, il n'avait pas assez la foi, quoi. Mais le lien entre la foi et la guérison, c'est vrai, peut être complexe dans les Écritures. Et en fait, c'est important de voir qu'il y a une relation qui n'est pas dans les deux sens. Je m'explique. La foi permet de recevoir la guérison. Mais la foi ne permet pas de fabriquer la guérison. Hein? Si je prenais un exemple un peu humain, je dirais, vous êtes malade, à l'hôpital, il y a de quoi vous soigner, mais si vous n'avez pas l'ambulance pour aller à l'hôpital, vous allez mourir chez vous peut-être. Mais ce n'est pas l'ambulance qui vous soigne, elle vous amène, enfin on peut déjà vous soigner dedans, mais hein, c'est une image, elle vous amène à l'hôpital où vous serez guéri. Donc si elle n'est pas là, vous pouvez mourir alors qu'il y a la solution, mais ce n'est pas l'ambulance qui fabrique l'hôpital ou qui vous guérit. D'accord? La foi nous permet de recevoir la guérison, c'est vrai, de façon un peu surnaturelle, on n'explique pas tout. Mais par contre, elle ne la fabrique pas, elle la paye pas, elle la produit pas, elle la provoque pas. La question, en fait, de fond, pourquoi certains sont guéris, d'autres pas? J'ai jamais entendu une réponse satisfaisante, je pense pas qu'il y en ait. C'est la même question qu'on a posée au départ, pourquoi il naît en bonne santé, pourquoi il n'est pas en bonne santé, pourquoi je suis né ici et pas en Afghanistan, pourquoi. Il y a énormément de questions sans réponse. Celle-là en est une qui est très forte. On peut simplement observer que Dieu guérit des fois, et des fois ne guérit pas. Et même dans la Bible, donc à une époque où il semble qu'il y avait plus de manifestations de la guérison divine qu'aujourd'hui, moi, je sais que souvent, je reviens à cet exemple. Début de l'Église à Jérusalem, Jacques se fait arrêter. Alors, pas Jacques, celui qui a écrit l'épître de Jacques, mais Jacques, le frère de Jean. Il se fait arrêter, on le met en prison, on lui coupe la tête. Pierre se fait arrêter, on le met en prison, on doit lui couper la tête. Un ange vient, le fait sortir de la prison et il vit encore 20 ou 30 ans. Est-ce que Pierre était plus spirituel que Jacques? Je suis sûr que non. Est-ce que l'Église avait mieux prié pour l'un que pour l'autre? Non. Ils priaient pour l'un, ils ont prié pour l'autre. Voilà. Un est rentré à la maison, l'autre avait encore du boulot à faire sur terre. Mais il n'y a pas d'explication à ça. Mais c'est vraiment important d'établir ça solidement avant de rentrer dans le sujet de la guérison, pour éviter là aussi deux excès. J'ai connu des milieux chrétiens où on ne priait pas pour les malades, parce que les gens avaient peur de prier contre la volonté de Dieu. Et si on priait pour un malade que Dieu ne veut pas guérir, ça serait grave, quoi. Non. La Bible est claire, quand quelqu'un est malade, qu'on prie pour lui. Et on ne dit pas à Dieu, si tu veux, guéris-le, sinon ne le guéris pas. Non, on dit à Dieu, guéris-le. On sait qu'il peut le faire. On sait qu'il va le faire ou ne pas le faire. D'accord ? Et ce n'est pas en se persuadant, il va le faire. Si je crois, c'est qu'il va le faire, il va le faire. Non, c'est un mystère. Dieu guérit des gens qui après ne le servent pas, Dieu laisse mourir des gens qui lui sont très utiles, Dieu guérit des gens qui ont une vie horrible, qui étaient des gens désagréables, Dieu laisse mourir des gens qui étaient extraordinaires. Il n'y a pas une logique là-dedans, il n'y a pas une question de marchandage, de récompense, c'est l'expression de la souveraineté de Dieu qu'on ne peut pas comprendre. Ça nous plaît, ça ne nous plaît pas, je préférerais qu'il y ait une explication, j'en ai pas, j'en ai jamais vu, je ne crois pas qu'il y en ait, tout simplement. Donc c'est important de savoir que quand on prie pour quelqu'un qui est malade, on prie pour qu'il guérisse, évidemment. Pas en se disant, oui mais si Dieu ne voulait pas. Oui, je sais qu'il ne va pas forcément le faire, mais quand je prie pour qu'il le fasse. Et s'il n'est pas guéri, je n'ai pas à me sentir coupable. Oh, je n'ai pas assez prié. Ah, on a prié une heure, mais si on avait prié deux, non. Si les gens étaient guéris au kilo de prière, vous imaginez un peu. Mais on rit, mais souvent, s'il y en a 10 qui répètent la même prière, s'il y en a 30... Alors, pourquoi c'est compliqué? Parce que si on établit que ce n'est pas notre kilo de prière qui guérit, la question qui vient immédiatement après, si on est un peu intelligent, c'est « Mais alors pourquoi on prie ?» Vous êtes d'accord avec moi? Je n'ai pas de réponse non plus. Sauf que la Bible dit « Prier pour les malades ». Et pourtant, si quelqu'un n'aime pas faire les choses sans les comprendre, c'est moi. Ça m'embête profondément. Mais dans ce domaine-là, je prie pour les malades. Je sais que Dieu peut les guérir. J'ai vu des guérisons, des vraies. Je ne parle pas genre quelqu'un ici a mal au dos. S'il y a 15 personnes, il y en a forcément 3 qui ont mal au dos. Et dans 3 jours, ils auront moins mal au dos. Et dans 6 jours, ils auront de nouveau mal au dos. Mais j'ai eu le privilège de voir quelques vraies guérisons attesté médicalement, de tumeurs, un cancer, des choses comme ça. Mais j'ai prié pour des centaines ou des milliers de malades entre tout ce que j'ai pu voir, et j'ai vu quelques guérisons. Je continue d'y croire chaque fois que je prie pour ça, mais je sais aussi que souvent ça ne se passe pas. C'est comme ça. Et puis, comme je le disais, j'ai connu un cas notamment avec quelqu'un qui avait une maladie très grave, qui était condamné. On a prié pour lui parce que sa famille était chrétienne. Il a accepté qu'on prie pour lui, mais ce n'était pas vraiment un croyant. Il a été guéri. Il n'est pas devenu croyant. Il n'a pas marché avec Dieu, je crois, ce que je sais, des années après. Donc, ce n'est même pas une question de... Voilà. Et je dirais, pour nous compliquer encore le sujet, comme si ça n'était pas assez, On a cette histoire dans l'évangile avec cette piscine où un ange descendait de temps en temps, remuait l'eau, et le premier qui tombait dans l'eau était guéri et les autres non. Franchement. Hein? On aimerait que ce texte-là soit dans un livre apocryphe que les catholiques ont ajouté. Hein? Non, c'est dans un évangile. En plus, c'est un passage qui, d'après ce qu'on sait, il n'y a aucun doute sur le manuscrit, c'est sérieux, il est bien là, c'est bien ça qui est écrit, c'est ce que ça voulait dire. Je ne l'ai même pas en tête, là. Je la trouverai. Hein? Je ne l'ai pas noté. Et puis, le pire, c'est qu'en plus, Jésus passe là et ne condamne pas cette chose-là. Il ne dit pas, c'est les démons, c'est pas vrai. Juste, il va guérir quelqu'un d'autre qui n'arrivait pas à attendre dans l'eau. Puis, il laisse les autres autour sans les guérir. Si déjà, vous ne compreniez rien, là, au moins, vous êtes sûr que vous comprenez encore moins. Hein? Mais pourtant, prier pour les malades quand on est croyant devrait être la pratique normale. Hein? Parce que la Bible dit « prier pour les malades ». Est-ce qu'il faut opposer la médecine et la prière? Bien sûr que non. Alors ça, je dirais, dans nos cultures, c'est assez bien intégré maintenant. Hein? Il y a des gens qui... c'est l'un ou c'est l'autre. Pas du tout. Hein? On fait tout ce qu'on peut humainement, on prie que Dieu intervienne, et on sait que Dieu intervient aussi bien en utilisant les choses entre guillemets naturelles que les choses surnaturelles. Mais de toute façon, tout est surnaturel. L'intelligence que Dieu a donnée aux hommes, un petit peu qu'il leur a donné, leur a permis de découvrir des médicaments, de découvrir des choses extraordinaires sur la chirurgie, sur ces choses-là. C'est Dieu qui a donné cette capacité à l'homme, de toute façon. Et des fois, il le fait autrement. L'autre chose qui est importante, et ça ne concerne pas que les miracles, mais pas que les guérisons, mais les miracles en général, on n'a pas d'exemple dans la Bible de miracles qui sont faits juste pour montrer que Dieu peut en faire. Il n'y en a pas. Hein. Dans la magie, dans les livres où il y a du surnaturel, de la magie, etc., moi j'aime bien ces livres-là, hein, mais qui sont des fictions, qui ne sont pas vraies. Il y a souvent de la magie qui est là, mais elle n'a pas de raison d'être. Quoi. Le dragon rose qui apparaît, non, ça c'est pas quand on l'a trop bu, hein, ça merde. Mais les choses bizarres comme ça, qui sont surnaturelles, qui ne servent à rien. Dans la Bible, quand il y a un miracle, c'est parce qu'il y a un besoin qui peut pas être, auquel on ne peut pas répondre naturellement. Et de temps en temps, Dieu choisit de court-circuiter les lois naturelles qu'il a établies pour répondre à ce besoin. Quand Jésus a marché sur l'eau pour rejoindre les disciples qui étaient partis de l'autre côté avec une barque, c'est parce qu'il n'y avait pas de barque. S'il y avait une autre barque avec des rameurs, il l'aurait prise. Et bien sûr que Jésus aurait pu toujours marcher sur l'eau, mais il n'a pas fait. Il y a plein d'autres occasions où il a pris une barque. Il n'a pas décidé, ah ben tiens, mais moi j'ai le pouvoir de marcher sur l'eau, qu'est-ce que je m'embête avec une barque, je vais toujours marcher sur l'eau. Non, il fallait aller de l'autre côté, il n'y avait pas de barque. Mais Dieu aurait pu aussi, et il l'a fait à d'autres moments sûrement, faire que quelqu'un vienne là avec sa barque et le prenne. Ben là, ce n'était pas le cas, il a marché sur l'eau. D'accord ? Quand Jésus guérit quelqu'un, c'est parce qu'il est touché de compassion, parce que cette personne est malade. Alors, c'est vrai que la question, c'est pourquoi il ne guérit pas tous les malades ? Je n'ai pas de réponse. Mais il n'y a pas un miracle qui est fait juste pour « regardez, c'est moi, je l'ai fait hein ». Et dans la guérison, c'est pareil. Donc Dieu répond parce qu'il y a un besoin. Ce n'est pas pour prouver qu'il est Dieu, qu'il est fort, qu'il est grand. Il pourrait le faire, mais il n'a pas besoin de ça. Donc ça, c'est aussi une autre chose qui est importante. Sur le rapport de la foi et de la guérison, comme je disais, hein, c'est vrai que c'est un peu complexe. Mais on voit par exemple, alors ça, j'ai noté la référence, j'en ai noté quelques-unes, hein. Dans Marc 6, verset 5, hein, il est dit, Jésus retourne chez lui, là où il a grandi, hein, dans son village. Il ne put faire là aucun miracle à cause de leur incrédulité. En fait, si je lis le verset en entier quand même, il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il guérit quelques malades en leur imposant les mains. Quoi. Donc, c'était le service minimum. Quoi. Il y a quand même eu quelques malades guéris. Mais, donc, on ne sait pas trop, mais il y a un rapport entre recevoir ce que Dieu nous donne et la foi, ça c'est une évidence. Mais on ne peut pas renverser la chose et dire la foi produit, la foi fabrique ou la foi paye. Non, la foi reçoit. Mais comme je l'ai dit, il y a des non-croyants qui sont guéris. quand Jésus a guéri les 10 lépreux, il n'y en a qu'un qui est revenu vers lui. Ce n'était même pas un juif, c'était un samaritain. Les autres ont été guéris. Ce n'est pas leur foi qui les a guéris. Hein. Et en même temps, quand Jésus guérit à distance la femme, la fille de ce soldat, il lui dit « ta foi est grande hein. ». Alors, il y a effectivement un rapport entre la foi et la guérison dans la réception de ce que Dieu nous donne. Mais en tout cas, surtout pas s'imaginer que ça paye, ça fabrique ou ça produit. Quoi. Parce que sinon, ça va être très très grave. Et puis, dernière chose générale, et après on va s'arrêter un petit peu sur le verset de Jacques, sur l'onction d'huile en terminant. Le fait que Dieu réponde à la prière hein, d'une personne en particulier qui va prier pour quelqu'un et la personne est guérie, ne fait pas de celui qui a prié un guérisseur. Il n'y a pas de guérisseur dans la Bible. Et ça, c'est quelque chose qui est important, parce que moi, j'ai vu beaucoup d'abus là-dessus aussi. Hein. Quelqu'un prie pour quelqu'un, la personne est guérie, et la personne dit, voilà, moi, je peux guérir les gens. Quoi, hein. J'ai le don de guérison. Oui, quelqu'un peut avoir le don de guérir quelqu'un. Enfin, Dieu va l'utiliser pour le guérir. Mais personne ne possède le don de guérison. Hein. Un petit peu comme, moi, je parle anglais, moi, je parle espagnol, moi, je sais faire ça, quoi, hein. Voilà, moi je sais jouer de la basse. Non. Dieu peut nous utiliser et évidemment que peut-être Dieu va choisir dans sa souveraineté d'utiliser quelqu'un plusieurs fois pour cette chose-là. Il peut le faire. Il peut le faire des tas de fois. Mais jamais cette personne a le pouvoir, elle, de le faire. C'est pas elle. Hein. Alors que quelqu'un ait cultivé son écoute de la voix de Dieu dans ces situations-là, c'est autre chose, hein, comme dans tous les autres domaines. Mais ça c'est important quoi, parce qu'après quand on se proclame que ce soit prophète, guérisseur, etc. et tout, non. Dieu peut prophétiser par moi, mais j'ai pas moi la capacité de prophétiser quand je veux. Dieu peut guérir par moi, mais moi je suis pas le guérisseur qui, parce que c'est moi qui prie, les gens vont être guéris. Sinon on arrive dans des dérives incroyables. N'importe quel croyant peut prier pour quelqu'un d'autre et Dieu peut l'utiliser ou pas, hein. Après que Dieu choisisse, là encore une fois, sans explication et pas rationnellement, certaines personnes, plus souvent que d'autres, pour être le canal de la guérison, oui, c'est une réalité. Mais ça ne fait pas de la personne un guérisseur, comme on avait vu dans le secret ou dans les trucs magiques, où la personne aurait un pouvoir et elle pourrait choisir, tiens, lui, je vais le guérir, lui aussi. Quand je suis là, il y a plus de guérison que si je n'étais pas là. Ce n'est pas biblique. Il n'y a aucun fondement à ça. Hein. Et ça peut amener des erreurs. Donc, ça, c'est des choses qu'il faut éviter. Maintenant, comme je l'ai dit, l'autre extrême ou l'autre tendance, c'est de ne pas trop parler de ça. Oui, on prie en silence, mais on a tellement peur des excès que du coup, on passe à côté de la chose normale que la Bible nous dit. Donc, prier pour les malades, quand quelqu'un est malade, c'est une chose courante qui devrait faire partie de notre vie. Ça peut se faire dans un rassemblement, ça peut se faire à la maison, ça peut se faire, je croise quelqu'un dans la rue, il me dit « je suis pas bien, tu veux prier pour moi ?» La Bible dit pas dans ces cas-là qu'il faut spécialement que ce soit quelqu'un en particulier qui le fasse. Hein. Maintenant, si la personne se sent plus à l'aise avec quelqu'un en particulier ou préfère que ce soit, les responsables ou si ou ça, elles peuvent le faire, mais il n'y a en tout cas rien qui dit nulle part que le pasteur serait la personne qui doit prier pour les autres. Le pasteur étant un des anciens et n'ayant aucun pouvoir de plus ou de moins que les autres croyants. Hein. Donc attention à la superstition qui se mélange avec ça. Et on arrive maintenant donc à ce verset de Jacques, enfin ces versets, Jacques 5, de 3 à 15. L'un de vous passe-t-il par la souffrance qu'il prie? Un autre est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Je pensais au témoignage de Sam parce qu'en fait, quand j'étudiais ce passage, qu'il chante des cantiques, littéralement, le mot qu'il utilisait, c'est quelqu'un est-il dans la joie qu'il prenne un instrument à cordes? C'est ce qui est écrit. C'est joli, hein? Alors tant pis si vous jouez de la trompette. Mais quelqu'un est-il dans la joie, en langage d'aujourd'hui, on dirait quelqu'un est-il dans la joie qui sorte sa guitare, hein? Qui gratte les cordes. D'accord, donc faire attention, ce n'est pas le sujet ce matin, mais quand on voit le mot cantique, nous on pense à nos recueils de cantiques en opposition au petit cœur, etc. Non, c'est qu'il exprime par le chant et la musique la reconnaissance qui est en lui. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Hein. Il n'est pas fait référence aux cantiques comme des chants particuliers, sacrés, qu'on chanterait que dans certains endroits, avec certaines occasions, avec certains instruments. La musique a été créée par Dieu et elle fait partie des choses qui nous permettent d'exprimer ce qui est en nous, peu importe le style et la façon de le faire. Donc, quelqu'un le tient à la joie, qu'il gratte sa guitare. Mais l'un de vous passe-t-il par la souffrance qu'il prie ? L'un de vous est-il malade ? Qu'il appelle les responsables de l'Église, littéralement les anciens ou les presbytéros, les responsables, qui prieront pour lui après lui avoir fait une onction d'huile au nom du Seigneur. La prière faite avec foi relèvera le malade et le Seigneur le sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis quelques péchés, il lui sera pardonné. Alors, ce texte-là, il a donné lieu à beaucoup de choses. Hein. C'est de là que vient, entre autres, après beaucoup de déformations, l'extrême onction, hein, qui se pratique dans certaines églises, avec l'huile pour là. Donc, c'est pas du tout de ça que ça parle, ça c'est clair. Hein. Maintenant, on s'est posé beaucoup de questions sur ce texte, parce que ni Paul, ni Jésus, ni personne d'autre parle de ça. Il n'y a que Jacques qui en parle. Et puis le texte est quand même particulier parce que donc là il dit qu'il appelle les responsables de l'Église hein, qui prieront pour lui la prière en fait voilà, et s'il a commis des péchés il lui sera pardonné donc ça fait poser des questions quoi hein. Alors en creusant un petit peu ce texte ce qui apparaît c'est que quand il est dit l'un de vous est-il malade. Bien sûr, le mot est général, mais il y a d'autres mots plus spécifiques pour parler de la maladie. La traduction plus précise serait « est-il dans une grande faiblesse »« Est-il sans force ?» hein ? Et il semble que ce texte parle, c'est pas qu'il parle pas de la maladie physique, hein, mais il parle du côté faiblesse spirituelle, émotionnelle et même physique, mais qui est la conséquence de la maladie. Quand on est malade et que ça dure, et je ne parle pas d'un petit rhume ou d'une grippe, mais on est forcément, naturellement, même si on se reprend, on est abattu, on est découragé, on est fatigué, on est sans force dans tous les aspects de nos vies. Hein. Et puis, il semblerait que l'onction d'huile ait pour but, bien sûr, de prier pour la guérison de la maladie, mais ça, on peut le faire sans l'onction d'huile. Hein. Partout ailleurs, il dit prier pour les malades, en imposant les mains ou pas de façon symbolique. Mais l'onction d'huile, alors en plus, l'autre chose, c'est que apparemment il y a deux termes, je vous dis apparemment parce que je ne suis pas un érudit, mais j'ai pu trouver ça dans pas mal de commentaires et puis dans le texte aussi. Il y a deux expressions pour parler de l'onction d'huile. Une qui parlait de l'onction d'huile cérémonielle, hein, qu'on faisait à un roi le jour de pour représenter, ou à un prêtre, etc. quoi. Et l'autre... Je dirais dans notre langage à nous, on dirait plutôt une bonne friction. Hein. Le mot littéralement là veut dire frotter avec de l'huile. En fait, quand quelqu'un était malade à l'époque, à cette époque-là, hein, parmi les médicaments qu'il y avait, il n'y en avait pas tant que ça, bon, il y avait des médicaments, l'huile tenait une place importante. On frottait les gens avec de l'huile pour qu'ils se sentent mieux. Le massage, tout ce côté-là, hein, oindre, voilà. Et c'est le mot qui est utilisé ici. Alors, ce n'est pas le fait qu'on va aller faire un massage aux huiles essentielles quand on prie pour quelqu'un, mais c'est le côté symbolique qui est mis en avant. Hein. Quelqu'un est malade, on peut prier pour lui pour qu'il soit guéri. Mais au-delà de la guérison physique, il y a toute la faiblesse morale, spirituelle, etc., qui fait qu'on est abattu, on est découragé par cette maladie. Et donc, il semblerait que ce texte ajoute à la prière pour les malades, j'allais dire classique, cette onction de la part des gens qui représentent l'Assemblée pour communiquer un encouragement et aider la personne à se relever. Comme ça a été dit ce matin dans les différents témoignages et interventions dans le moment que Sam nous a préparé, quand on ne va pas, il ne faut pas rester seul. Quand on est découragé, quand on est abattu, enfin, il ne faudrait pas rester seul. Hein. Et puis, c'est la tendance naturelle, on veut être seul, en général, quand ça ne va pas. Et justement, ce texte-là, c'est un appel au secours. Je suis malade, ça c'est une chose physiquement, je veux qu'on prie pour ma guérison, mais aussi je suis découragé, je suis abattu. J'aimerais que le corps de Christ soit autour de moi. Et donc, les anciens viennent représentant le troupeau d'une certaine façon, hein, et puis ils vont faire cette friction d'huile, là aussi symbolique, mais qui est là pour dire, on est là pour te communiquer l'encouragement du corps de Christ dans cette épreuve, en même temps qu'on va prier pour ta guérison physique. Et je dois dire que dans toutes les explications ou interprétations que j'ai trouvées, c'est celle qui m'a semblé le moins tordre le texte et qui me semblait le plus en accord avec le reste des Écritures. Parce qu'on y retrouve toute la douceur et la compassion de Christ, qui ne se contentait pas de juste guérir les malades, mais de s'occuper d'eux. Hein. Souvent, il est dit, il fut ému de compassion en voyant leur... Et ce n'était pas que la maladie, c'était leur détresse, leur abattement, leur isolement, leur solitude, leur angoisse, leur crainte. Et la maladie physique a pour conséquence directe toutes ces choses-là. Hein. On est malade, c'est une chose, mais la crise d'angoisse qui vient avec, parce qu'on ne sait pas si on va guérir, elle fait autant de mal que la maladie. Et puis le fait qu'on n'arrive plus à dormir parce qu'on est inquiet, et toutes ces choses-là. Hein. Et donc l'onction d'huile, elle rajoute à la prière pour les malades que Dieu nous demande de faire, le côté réconfort du corps de Christ par le Saint-Esprit, au travers d'une représentation du troupeau de l'Église, de la famille de Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'en fait c'est une belle chose, et qu'on ne devrait pas s'en priver. Enfin, pas qu'on le fasse pour s'amuser, mais je veux dire, quand on est malade et qu'on est abattu et découragé, on devrait le faire. Pourquoi ? Parce que, hein, qu'il appelle les responsables de l'Église, ça veut dire que ça me met dans une démarche où je demande du secours. Au lieu de rester chez moi tout seul, bon d'accord, j'ai été voir le médecin, puis je retourne chez moi et je déprime. Parce que je ne sais pas ce qui va se passer, j'attends les résultats des examens, comment ça va évoluer, qu'est-ce que... Et je vois que je suis en train de m'enfermer dans ma solitude, et là je me dis non, je ne veux pas rester seul dans cette épreuve. J'appelle, bien sûr Dieu, mais Dieu nous a donné le corps de Christ. Et là, une petite partie du troupeau vient, du corps, de la famille, et puis bien sûr, vont prier pour la guérison physique. Ce n'est pas question ici de dire, on prie que pour l'âme. Non, 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 on prie pour la guérison physique, et on fait l'onction d'huile, en disant voilà, c'est comme si l'Église... venez te faire un câlin d'encouragement en attendant l'action de Dieu. Hein. Et c'est important de voir que... parce que Jésus, dans les guérisons, très très souvent, il y a une partie tactile. Hein. L'imposition des mains, par exemple, ce n'est pas magique. Que je prie comme ça, là, si je prie pour Thomas, que je prie ici, ou que je vienne là, et que je fasse ça quand je prie, qu'est-ce que ça change pour Dieu ? Enfin, soit on est dans la magie pure et la superstition complète, hein, soit on sait très bien que ça ne change rien pour la prière. Mais pour celui pour qui on prie, une main posée sur l'épaule, ce n'est pas pareil. Pourquoi ? Parce qu'on est des êtres humains, on n'est pas des esprits. Hein. Le réconfort du toucher. Et on voit comment Jésus posait ses mains, faisait de la boue, mettait sur les yeux, touchait, prenait, etc. Prenait dans ses bras, recevait les enfants sur ses genoux, il les touche. On a un corps aussi. Et le corps n'est pas juste quelque chose de sale qui sert au péché, pour je ne sais pas trop quoi. Non, Dieu nous a donné un corps. Christ s'est incarné, il a pris un corps, il a mangé, il a fait toucher à Thomas à ses côtés, il a eu faim, il a eu sommeil, il a vécu avec, et nous vivons avec. Donc l'onction d'huile, en plus de l'imposition, c'est encore quelque chose de corporel, de réel pour nos corps, qui est là pour dire, le corps de Christ est avec toi. Dieu peut te guérir, on va prier pour ça, mais en plus, on est là, et on va j'ose pas le dire, mais te frotter avec de l'huile, pour t'encourager. Parce qu'on est là, concrètement, on n'est pas juste des esprits qui prions pour ton esprit, hein, des âmes qui prient pour les âmes, non. Et pensez que tout ça, c'est dans l'épître de Jacques, le même Jacques qui dit « Si tu pries pour ton frère qui n'a pas à manger, qui vit dans le froid, et puis après avoir prié, tu lui dis « Rentre chez toi, mange et chauffe-toi », t'as rien compris. Prends-le à ta maison si la tienne est chaude et la sienne est froide, partage ton morceau de pain avec lui, c'est ça la vie chrétienne. » Et je ne sais pas si vous le savez, mais d'après ce qu'on sait, l'épître de Jacques est la première lettre du Nouveau Testament qui a été écrite, hein, avant les évangiles, avant les épîtres de Paul, avant tout le reste, quoi, hein. C'était une des premières choses qui était mise par écrit pour donner aux premiers croyants un peu quelques façons de vivre la vie chrétienne. C'est pour ça que ce n'est pas une épître compliquée sur la théologie comme Paul va le faire dans l'épître aux Romains. C'est une épître de vie pratique qui était, voilà, l'Église vient de se former, ils ont l'Ancien Testament, ils n'ont pas le Nouveau Testament, il n'y a aucun écrit. Paul est, s'il est peut-être déjà converti, mais enfin, il n'est pas là, il est occupé à implanter les églises chez les païens. Et Jacques écrit une lettre relativement simple sur comment on vit dans le corps de Christ. Hein. Et c'est pour ça que cette chose-là, elle a sa place là. Hein. C'est pas un élément théologique, l'onction d'huile. C'est un élément de vie pratique dans le corps du Christ. Ça rajoute pas. Si on prie pour quelqu'un et que Dieu veut le guérir, c'est pas parce qu'on a mis de l'huile ou pas d'huile qu'il va être plus ou moins guéri. Hein. Par contre, pour la faiblesse de la personne, pour sa difficulté à vivre, hein, alors l'encouragement est concret. Hein. Comme je disais la semaine dernière, alors moi je suis privilégié, c'était pas du tout une grosse épreuve, mais voilà, j'ai eu 5 semaines malade, j'étais isolé chez moi, fatigué, pas en forme, pas l'énergie, etc. C'est rien. Hein. Mais les moments qui m'ont fait du bien, c'est quand j'étais assez bien pour aller quand même à une soirée, à une rencontre, voir des gens. Je revenais de là, oui, j'avais toujours de la fièvre le lendemain. Mais ah, ma faiblesse avait disparu. Ben, d'en parler, d'être avec vous, de voilà, quelqu'un qui dit ça va, tape sur l'épaule. C'est ça l'imposition des mains. C'est ce contact physique, parce que spirituellement, on peut prier pour quelqu'un qui n'est pas sur place, ça ne change rien pour Dieu. Hein. Si je prie pour quelqu'un qui est malade en Chine maintenant, c'est quoi la différence si j'étais à côté ou pas? Pour Dieu, rien, mais pour la personne, oui, ça fait une grosse différence. Donc ça nous ramène à une dimension humaine que Dieu n'oublie pas, parce qu'il nous a fait comme ça, et qu'on doit nous aussi entretenir, et qui nous rappelle combien la famille de Dieu, le corps de Christ, ce n'est pas une option. Et c'est dommage, je trouve, d'attendre d'aller mal pour s'apercevoir qu'on a besoin des autres. Apprenons à vivre ensemble toujours plus, à nous encourager, à nous faire du bien, quand ça va bien. Parce que si on le fait quand ça va bien, quand ça va faire mal, les gens seront là. Hein. Ils viendront aussi quand ça ne va pas si on n'était pas ensemble avant, bien sûr. Mais c'est dommage d'attendre comme ça. Alors que Dieu nous conduise dans ces choses-là et nous permette de grandir dedans et de les vivre. Seigneur, on te remet tout ce sujet, tu vois, toutes les questions que ça soulève, plus de questions que de réponses. Et en même temps, on veut te remercier parce que tu as pensé à nous, pas juste comme des esprits ou des âmes, mais tu as pensé à nous comme des êtres avec un corps, une âme, un esprit. Et tu veux prendre soin de tout notre être, de toutes nos vies. Et tu veux que ton Église sur terre soit le moyen de manifester ta tendresse, ta miséricorde, ta douceur, ta compassion. Aide-nous vraiment à être remplis de ces réalités-là et à pouvoir nous encourager les uns les autres, à pouvoir nous rassurer, à pouvoir nous décharger aussi sur toi, mais aussi les uns sur les autres, pour que tu enlèves notre faiblesse, pour que tu guérisses et que nous puissions aller de l'avant avec toi, Seigneur Dieu. Amen.